Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotech.
Et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Catherine Bernstein et Jean-Marc Dreyfus pour leur film « Les restitutions » réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui sera prochainement diffusé en avant-première le 28 juin prochain à 16h30 au Mémorial de la Shoah à Paris en attendant la diffusion sur France 3. Alors avec ce documentaire, vous revenez sur les spoliations des biens juifs par les nazis et sur ce moment de l'immédiate après-guerre où se sont mises en place les premières restitutions en mettant notamment en valeur le rôle d'Émile Terouane. Nous allons y revenir. Alors comme souvent dans vos films, Catherine Bernstein, vous parvenez à rendre humain un sujet qui peut paraître un peu aride. Et cette fois-ci, vous vous êtes dans un premier temps concentré sur une ville, Lyon, et sur des témoignages très forts d'hommes et de femmes, enfants à l'époque, qui ont assisté à la spoliation de leurs parents et qui vous racontent, étape par étape, le retour ou l'impossibilité du retour dans leur appartement à la fin de la guerre et leur regard très personnel sur la question des réparations. Alors, on a beaucoup parlé des spoliations ces dernières années, notamment grâce à l'exposition au Mémorial de la Shoah, mais c'est autre chose que ce témoignage direct de ces enfants. C'est sur ces témoignages qu'est né le désir de faire ce film, ou ils sont venus au contraire au fur et à mesure?
Alors le désir, il a une genèse. C'est qu'avec Jean-Marc Dreyfus, l'historien qui m'a aidé sur ce film et qui est co-auteur de ce documentaire, nous avions fait il y a longtemps, en 2006 je crois, un film sur la spoliation des juifs sous l'occupation, un film qui s'appelle « Assassinat d'une modiste ». Et là, France 3 nous a soutenus dans l'idée de raconter ce qui se passe effectivement au moment du retour des Juifs qui inévitablement ont dû se cacher. Enfin, certains Juifs pendant l'occupation ont pu rester dans leur appartement, mais beaucoup ont dû, parmi ceux qui n'étaient pas déportés, ont dû se cacher. Et donc au lendemain de la guerre, ils reviennent chez eux. Et quand on a su que France 3 préparait une collection de films sur le lendemain de la guerre, on s'est dit, qu'en est-il pour les Juifs? À ce moment-là, nous avons appris, et enfin Jean-Marc était déjà au courant, c'est Jean-Marc qui m'en a fait part, que les premières démarches de restitution sont parties de Lyon, d'où la ville de Lyon, parce que Émile Terouane a été en charge de trouver une solution, comment mettre en place une politique de restitution pour les biens spoliés. Et à Lyon, nous avons pu rencontrer des premiers enfants de victimes, enfin témoins réellement, puisqu'ils étaient quand même, ils avaient une dizaine d'années, avant la guerre et adolescents au lendemain de la guerre, de ces spoliations. Et du coup, on s'est dit, ça serait intéressant de mener d'un côté une narration sur la politique administrative de restitution, et de l'autre, de donner la parole de ces témoins, parce qu'elle nous a évidemment touchés.
Oui, c'est ça. On voit bien, vous avez découpé votre film de manière chronologique. Tout d'abord les spoliations, puis ce retour à l'appartement, et enfin la question des restitutions. Pour vous, c'était important de retracer un récit, un contexte à cette question de la restitution qui peut parfois être réduite à une question comptable. Et là, on voit au contraire tout le...
Ben effectivement, c'est un sujet extrêmement délicat parce que ce n'est qu'une histoire comptable et que du coup, ça nous a semblé important d'avoir le point de vue humain en face. Parce que le problème des restitutions, c'est comment on le chiffre? Parce que quand on ne peut plus voir ses parents pendant 2 ou 3 ans, quand on ne peut pas faire d'études, quand on est rejeté de partout ou quand la famille est déportée et assassinée, qu'est-ce qu'on répare? Et du coup, on a essayé de mener un peu toutes ces interrogations. C'est une question sans fin et à laquelle il est extrêmement difficile de répondre.
Et puis, à ces témoignages dont on parlait au départ, je pense notamment à celui de Robert Nathan, qui raconte l'arrivée de l'administrateur de biens, il y a son nom, Joseph Tritz, dans l'appartement de ses parents. Ça, c'est absolument incroyable.
Ben Jean-Marc, peut-être tu
veux... Oui, Catherine a bien expliqué qu'on a eu un cahier des charges qui était de raconter l'après-guerre et une politique publique, puisqu'il s'agit de ça, une politique publique, administrative, de restauration des Juifs dans leurs droits économiques. Voilà, pour utiliser un langage un peu difficile. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y a eu une réelle volonté du gouvernement français, gouvernement provisoire, et puis du gouvernement permanent, dans l'après-guerre, de restituer ou d'indemniser. Et c'est difficile à dire, en fait. C'est-à-dire que quand on a la Shoah en héritage, quand on a cette mémoire si présente de la Shoah, qu'est-ce qu'on peut réparer ? C'est impossible de réparer. Mais bon, ça a eu lieu pour des tas de raisons qu'on peut expliquer, liées à l'histoire de France, et ça a été fait. Et ça a été fait pas si mal, vu les conditions d'époque, vu que 25% des Juifs de France avaient été déportés, vu les réticences des différentes administrations, vu le climat d'antisémitisme persistant, etc. Ça a été fait pas si mal. Voilà. C'est ce que voit la CIVS. La CIVS, la commission actuellement qui rouvre les dossiers, voit très bien que pour beaucoup de dossiers, il y a eu des choses qui ont été faites, des indemnisations, des restitutions dans l'après-guerre. Mais ça a été fait de façon, si vous voulez, c'était encore la froide machine administrative. Alors on parle d'ordonnance du tribunal, des grandes instances, on parle d'ordonnance, de loi de restitution, de personnes victimes, etc. Tout ça est très juridique, est très comptable, il y a de l'administratif, des papiers. Et Catherine, il faut lui en savoir gré, c'est bien montrer ça aussi, les papiers, les documents, les formulaires qu'il faut remplir, formulaires qui reviennent souvent aux administrations avec la mention « personne déportée ». Aussi, hein. Et face à ça, il y a les expériences personnelles de ces personnes qui 70 ans après sont toujours blessées, hein, sont toujours blessées. Alors on a réparé économiquement, mais est-ce que ça a suffi?
C'est ce que vous montrez également, ça dans la partie qui va être consacrée au retour dans les appartements, qui est particulièrement édifiant. Je prends l'exemple, par exemple, de Jean-Paul Rosner, qui raconte comment sa famille a dû, dans un premier temps, partager un appartement avec la femme d'un collaborateur qui est en attente de relogement. Enfin, on sait bien que l'après-guerre a été un chaos incroyable, mais à ce point-là, c'est absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu retourner dans leur appartement parce qu'il était occupé. Et on les a logés avec un collaborateur.
Un appartement, il y avait une chambre qui restait la femme, en fait, d'un collaborateur.
Sa
fille. Donc il y a eu cette espèce d'étrange cohabitation.
L'immeuble même du collaborateur.
Le collaborateur. Donc c'est ce type d'histoire-là qu'on a voulu aussi rendre en contraste, je dirais, en tension. Avec les grandes décisions de loi, l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la restitution, etc., etc., jusqu'aux indemnisations allemandes, tout cet édifice bureaucratique qui a été mis en œuvre. Mais je crois qu'il faut qu'on parle de Terouane, peut-être que vous allez
nous poser la question. Je vais vous la poser juste dans un instant. Une autre chose qui est très frappante, c'est cette manifestation, Jean-Marc Dreyfus, on parle d'un historien, une manifestation de locataires dits de bonne foi qui refusent de quitter leur appartement qui a été spolié aux Juifs et qui scandent des slogans d'une violence extrême.
Après la libération.
Oui, juste après le
chassage. Alors que les premiers déportés survivants, rares, sont déjà revenus. On est en avril, fin avril, hein, 45. Oui, alors ça nous a semblé important. C'est quelque chose qu'on a trouvé dans des mémoires, dans des romans.
Dans un livre de Robert Bobert,
dans la pré-juive. Pas dans la grande histoire des spoliations, restitutions, c'est pas mentionné. C'est tout de même unique. Hein. Je veux dire, c'est une manifestation antisémite d'acheteurs et d'administrateurs provisoires de biens juifs spoliés qui vont manifester, ça dégénère en bagarre généralisée, et la police intervient. C'est unique en France, mais il faut penser à ce qui s'est passé en Europe de l'Est, où les rares survivants rentrant en Pologne, mais pas seulement, hein, en Roumanie, Ukraine, etc., y compris en Allemagne, hein, se heurtent à une hostilité, à une violence. Et il y a des meurtres. Alors, on n'en est pas là en France parce qu'on a la légalité républicaine et que la police a retourné sa veste, si j'ose dire, et défend maintenant les citoyens. Mmh. Mais on a quand même ce moment et ces résistances. Et puis, les résistances vont, alors, aux restitutions, vont se manifester de façon beaucoup plus subtile et moins visible dans des procès. Des gens qui ont acheté des biens juifs, qui se considèrent comme propriétaires légitimes, de bonne foi, et qui vont refuser de rendre. Et il y a des familles juives, celles qui peuvent payer un avocat, celles qui sont intactes, celles qui parlent français, et il y a beaucoup de conditions, qui vont, dans certains cas, passer des années et des années en procédure pour faire appliquer la loi.
Alors pour compléter par rapport à ce sujet, vous parliez tout à l'heure de l'histoire de Jean-Paul Rosner, dont la famille et lui-même ont dû partager un appartement avec la femme et la fille d'un ancien collaborateur. Mais c'est un an après la libération. Ça rejoint l'histoire de cette manifestation qui a lieu en juin 1945. C'est-à-dire qu'en juin 1945, il a fallu même en général attendre jusqu'à 1946, voire 1947, pour que des familles juives à Paris puissent retourner dans leur propre appartement. C'est-à-dire que ça vient pas tout, ça met un certain temps. Alors, à la fin, les familles récupèrent leurs biens, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
C'est un combat. Mais c'est justement, et on en vient justement à Émile Tharouane, Jean-Marc Dreyfus, dont vous vouliez nous parler. Vous allez nous présenter. Ce qui est frappant, c'est ça. C'est-à-dire cet homme qui va faire face justement à cette résistance très profonde de tous ces administrateurs qui... Donc tout commence à Lyon, si c'est...
Alors Émile Tharouane, c'est un personnage qui a été redécouvert au moment des travaux de la mission Matteoli. Donc quand c'est commission d'historien, ça fait pas mal de temps maintenant, ça fait 15 ans, a présenté son rapport. On a mis en avant ce personnage qu'on rencontrait dans les dossiers de restitution. Et donc je complète, comme ça a été bureaucratique et long et compliqué et administratif, bon, on connaît l'administration française, hein, c'est comment ça marche, et ben il y a des tas d'archives, il y a des tas de documents, il y a des tas de documents, des milliers de pages signées Émile Tharouane. Alors qui était cet Émile Tharouane? D'abord il ressemblait terriblement à Léon Blum, à tel point qu'on nous disait: attendez, il y a une photo de lui qui circule, c'est pas lui, c'est Léon Blum. Mais si, c'est lui, c'est bien lui. Et c'est l'affiche là qu'on a faite pour le documentaire. Il est biologiste, il est très républicain, il est socialiste, c'est un grand savant à l'époque. Il était professeur de biologie à l'université de Strasbourg. Et il était sympathisant de la résistance. Sympathisant suffisamment pour avoir fait 3 mois de prison et avoir eu la chance d'être libéré en début septembre par les forces alliées. Sinon, il aurait été probablement déporté. Il sort de Montluc à ce moment-là. 2 jours après sa sortie de Montluc, il est nommé par Yves Farge, le commissaire de la République à Lyon, personnalité éminente, chargé des restitutions. Et donc, il va rentrer dans les locaux du commissariat général aux questions juives à Lyon. Il se trouve place Bellecour, sur la place principale. Il va dire: je séquestre tout. Parce qu'il se rendait compte qu'il avait besoin des documents. Et il va faire un travail absolument ahurissant. On se demande comment il a fait. Il n'avait pas d'aide. Il avait 2 aides bénévoles qui étaient des laborantins de son laboratoire de biologie. Et puis on voit comment il a fait pour si peu de temps. Et surtout, il comprend. Il comprend ce qu'il faut faire pour aider les Juifs, et qu'il faut le soutien de l'administration française pour ces familles juives. Il ne faut pas laisser les familles juives seules face à l'administration.
Il va reprendre tous les dossiers de spoliation et il va contacter tous les noms des entreprises, des appartements, toutes les personnes.
Et des administrateurs. Donc c'est colossal. Et il a un modèle. En 3 mois, c'est fait à Lyon. C'est plus facile à Lyon, il y a moins de Juifs, il n'y a pas de destruction, la réorganisation a commencé plus tard, c'est la zone sud. Bon, ouais. Mais il a un modèle. Un modèle à tel point que quand à Paris, on patauge encore pour savoir comment on va restituer, qu'on n'a pas de modèle, on a le modèle de ce qui est fait en Algérie, ça c'est très très mal fait, pour les restitutions de biens juifs, on va dire il faut nommer Tharouane. Donc il va arriver à Paris, en janvier 1945, pour être nommé au service national des restitutions. Juste un mot encore, il est remarquablement discret. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des traces de lui, des photos, des archives, parce que c'est quelqu'un qui est qui ne cherchait absolument pas ni la gloire ni la reconnaissance. Ce qu'il voulait, c'était reprendre ses recherches en biologie. Il a terminé d'ailleurs l'un des directeurs du CNRS.
C'est lui qui va se battre pour l'ordonnance du 21 avril 1945.
Oui, c'est-à-dire que dans le film, ça dure 5 minutes, mais on a dû réduire parce que sinon ça pouvait paraître rébarbatif, mais c'est un vrai combat qu'il mène. Ça a été des jours et des jours. Mais juste pour finir sur sa discrétion, c'est-à-dire qu'après, il va reprendre son travail scientifique et il ne fera plus jamais mention de tout ce qu'il a fait de cette période, considérant que c'est normal et qu'il n'a aucune gloire à en tirer. Enfin, c'était pour lui rendre hommage. Et on trouvait pas de photo de lui, donc on a fait... Et la directrice de production nous a beaucoup aidés. On a appelé tous les terroirs de France, on a fait une méga enquête, etc. Et à un moment donné, on est tombé sur la petite fille, puis sur la fille, et on est arrivé à la fille d'Émile Terouane, qui est dans le film et qui est extraordinaire. Et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais je crois qu'elle a 96 ans et je la trouve assez impressionnante.
Et moi, je voudrais raconter tout de même la photo de famille, ce que j'ai retrouvé dans les archives d'une de mes cousines, des juifs français, une photo qui date d'avant 14-18 et qui est une photo du laboratoire de biologie du Collège de France à l'époque. Il y avait Jeanne Veil, qui était la cousine germaine de mon arrière-grand-mère, voilà, c'est très important. Des jeunes scientifiques, comme je l'ai écrit quelque part, on a l'impression, ils regardent le siècle qui s'ouvre, on est avant 14, avec beaucoup de gourmandise, que va-t-il se passer? Ils sont là, ils sont jeunes, ils sont au centre de la science française, et à côté, il y a un jeune biologiste prometteur, Émile Terouane. Donc on avait une photo quand même.
À Strasbourg,
qu'on a mise, au Collège de France, photo que tu as mise dans le film d'Émile Terouane, jeune, mais c'est un hasard extraordinaire.
Oui, c'est par ta famille.
Voilà, tout à fait par hasard.
En quelques mots, est-ce qu'on peut revenir justement sur cette ordonnance, enfin sur la spécificité de cette ordonnance et les raisons pour lesquelles elle a une telle importance?
Alors, c'est une ordonnance qui donne raison aux spoliés, donc qui annule simplement les procédures de Vichy d'aryanisation économique et de liquidation, et la preuve de la bonne foi doit être apportée par l'acheteur. Donc ça retourne complètement la preuve. C'est-à-dire, les biens qui ont été spoliés, vendus, je répète, légalement sous Vichy, c'était une procédure légale, notaire, etc., sont considérés comme spoliés, volés, et on doit automatiquement annuler les ventes. Et si l'acheteur veut garder le bien, ben c'est à lui d'apporter la preuve devant le tribunal qu'il a acheté de bonne foi.
De bonne foi, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il ne savait pas
que c'était quelqu'un qui avait été spolié.
Voilà. Alors, en règle générale, donc on a quand même les ordonnances, c'était impossible de ne pas savoir.
Donc, pour les administrateurs de biens, forcément, cette chose-là est impossible, puisque...
Ça se passait par un administrateur provisoire, avec les tampons du commissariat. On ne l'a pas mis dans le film, parce qu'on ne voulait pas rentrer dans des détails trop techniques, mais ça a été le cas pour les actions, pour les titres vendus en bourse. Et donc, les acheteurs en bourse ont titres qui n'étaient pas au porteur, titre au porteur, pardon, qui n'était pas nominatif, on n'avait pas le nom. Et là, il n'y a pas eu de restitution.
Il faut préciser que la fameuse ordonnance du 21 avril 1945 vient après une première ordonnance qui n'était pas claire, justement, et qui ne réglait pas ça, et qui était en novembre 1944, et qui obligeait les spoliés de justifier de leur propre spoliation et de leurs droits, ce qui fait que c'était impossible. Et du coup, le changement avec cette nouvelle ordonnance qui, elle, fait date, puisque c'est elle qui va permettre quasiment toutes les restitutions à Paris et
dans toute la
France, a un rôle important.
Et donc, c'est très efficace. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu montrer, c'est que voilà, ça marche. Donc là, on va au tribunal. On est en référé sur le fond, ce qui juridiquement est une aberration pour les juristes, mais c'est le cas, c'est-à-dire la décision est prise immédiatement, on n'attend pas des semaines, on va au tribunal, le jour même on a un référé, la vente est annulée, restitution est faite, et on a des centaines, des milliers d'ordonnances qui passent comme ça, toc, 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 par plusieurs dizaines par matinée devant les chambres spécialisées. Et on a des statistiques sur ces ordonnances, et donc là ça se débloque. Pour les appartements, pour les biens visibles qui sont là, On ne parle pas naturellement des objets personnels, des œuvres d'art, etc.
Oui, là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque tout ce qui a été pris par les Allemands eux-mêmes, dans les appartements en France, eux ne sont pas ni remboursés par l'État français.
Mmh. Puisque c'est...
Ça viendra plus tard, dans un premier temps, de l'Allemagne. Et puis, il y a évidemment tout ce qui ne sera jamais retrouvé.
Là, ça concerne vraiment tout ce qui a été mis en place sous Vichy, en fait. Tout ce qui a été...
Et pris par des Français.
Vous avez également rencontré le peintre Gérard Garousse, dont le père a fait partie de ces administrateurs de biens juifs, notamment Lévitan à Lyon. Comment ce témoignage s'intègre-t-il dans ce documentaire ?
Alors, je précise, Lévitan était basé, la maison mère était à Paris. Je connaissais l'histoire du père de Gérard Garousse grâce à Jean-Marc. Il s'avère que la petite fille de Wolf Lévitan, qui a le sous-main à la fin du film, est une amie proche depuis longtemps.
Ah oui, donc vous connaissiez par cet objet l'histoire.
Oui, et ça faisait longtemps que cet objet... Et en plus, Gérard Garousse a peint au moins 5 fois ce sous-main dans différents tableaux de son œuvre. Et quand j'ai eu la possibilité de faire ce film sur la restitution, j'ai trouvé ça intéressant à deux titres d'avoir son témoignage. D'abord, parce que d'avoir le témoignage d'un enfant d'administrateur, enfin il n'était pas administrateur, mais d'acheteur de biens juifs, dans les conditions qu'on connaît pendant l'occupation, c'est-à-dire c'était à vil prix. C'était formidable. Et parallèlement à ça, je savais par la lecture du livre qu'avait écrit Gérard Garousse l'importance que cet objet qu'il avait en sa possession et qui appartenait à l'entreprise que son père avait spoliée l'avait marqué toute sa vie. Et le fait que son père lui-même soit un spoliateur l'a toujours hanté. Et son obsession de vouloir la restituer, je trouvais que ça faisait partie aussi de ce film, même si ce n'est pas l'histoire officielle, administrative et tout. Et donc, à ces deux titres, c'était formidable, il nous semblait important d'avoir son témoignage, ce qu'il a accordé, mais avec beaucoup de générosité.
On parle aussi dans ce documentaire, peut-être en quelques mots, de la question des œuvres d'art et de leur restitution, notamment avec le témoignage de Bertrand Hertz que vous suivez, tandis qu'il se rend au musée des Beaux-Arts de Mulhouse.
Alors là, ça a été une rencontre, ça c'est vraiment Jean-Marc qui connaissait Bertrand Hertz. C'était extraordinaire parce que M. Hertz, qui a aujourd'hui 84 ans, n'avait pas revu le tableau de son enfance, qui était dans le séjour au moment où il a dû fuir en zone sud avec ses parents et peu avant sa déportation à Buchenwald. Il n'avait pas vu ce tableau depuis 1942. Et par un hasard de circonstances, par Internet, il découvre que ce tableau a été retrouvé. Et donc, il avait été volé par les nazis en France et était parti en Allemagne. Et il pensait que ce tableau faisait partie des milliers d'œuvres d'art qui n'ont jamais été retrouvées. Et donc, par hasard, il y a 2 ans, au moment où il s'est dit c'est le moment d'écrire un livre, au moins pour témoigner auprès de ses enfants et de ses petits-enfants, il se dit quel est mon arbre généalogique et remonte la trace. Et il découvre que le tableau en question qui avait été peint par son arrière-grand-père était sur Internet. Et du coup, je me suis dit, il a récupéré ce tableau en février 2015, très récemment, mais je voulais être là la première fois où il allait revoir ce tableau.
Oui, puisqu'en fait, il est dans les collections du Musée des Beaux-Arts.
Exactement.
C'est incroyable.
Oui. Alors, donc on a pris le train ensemble.
Et... voilà, donc entre-temps, ce tableau a été restitué officiellement par la direction des musées de France, à M. Hertz, mais ça n'a pas été très facile. Ça a eu beaucoup, enfin une attente, je pense, un peu inconsidérée.
Alors que lui, il même dit, au moins ça sera simple, parce que moi je m'en souviens du tableau. Je
sais pas, oui, comme mais ses ça n'a pas suffi, hein, justement. Pour deux raisons, on lui dit... Ça a beaucoup traîné, entre autres parce que l'administration française semblait dire que, d'après ce que j'ai compris, tu m'arrêtes Jean-Marc si je me trompe, que c'est trop facile de retrouver un tableau sur Internet et de dire après, c'est à moi. Donc il a dû prouver qu'il était le fils de Willy Herz et le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Gottlieb Herz.
Le peintre, donc.
Le peintre. Coup de bol que le tableau était peint par un aïeul, parce que sinon il ne récupérait pas le tableau. Plus, il était toujours lié à son voisin d'enfance, son camarade, qui a témoigné qu'il a toujours vu ce tableau. Mais ça ne suffisait toujours pas, donc ça a été très long et très incertain. Et donc c'est merveilleux qu'il ait récupéré. Et ça nous a semblé important que ça soit dans le film, parce que ça voulait dire que l'histoire continue toujours, et que c'est toujours actuel.
Et alors, c'est quand même juste un mot pour ce tableau. Le tableau était destiné à la collection personnelle d'Hitler.
Oui.
Donc on est quand même dans c'est pas la petite histoire, on est aussi dans l'histoire.
Qui ne savait pas que ce tableau avait été peint par un juif.
Oui, sûrement.
Je vous remercie beaucoup, Catherine Bernstein et Jean-Marc Dreyfus. Je rappelle donc que votre film Les Restitutions, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera prochainement diffusé sur France 3, ainsi que en avant-première le 28 juin prochain à 16h30 au Mémorial de la Shoah à Paris. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.